Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à vous, nous sommes heureux. Heureux de vous retrouver, heureux. Comme tous les soirs sur RTL. Dans la curiosité, vous allez bien Thomas?
Il est en pleine forme le Thomas Hugues. Comment va la Bonnec?
La Bonnec est très en forme, la trapue.
Alors c'est quoi la fiche de la curiosité ce soir?
On va grimper à bord d'une voiture culte, la Peugeot 404. Elle symbolise l'insouciance et le progrès des années 60. Et comme la télé quelques années plus tard, elle passe à la couleur tango ou bleu turquoise. Vous pourrez choisir.
Je vais prendre tango, tiens. Et puis on va s'inviter à la table des plus grands. On vous racontera ces repas qui ont fait l'histoire. Alors qui va rentrer dans le sud de la curiosité? Il va y avoir Henri IV et sa poule au pot.
Oui,
quand même. Napoléon et son poulet maringot. Et puis Louis XVI et ses pieds de porc.
On a du beau monde ce soir.
Il va avoir du mal à marcher.
Tout de suite. Allez. Un voyage extraordinaire au pays des loups.
RTL.
Il m'a fallu 5 ans pour approcher l'intimité des aigles et réaliser ce rêve d'enfant. Une porte était entrouverte et je ne comptais pas la refermer.
La curiosité est un vilain défaut.
Un nouveau rêve est venu d'Italie. Il est arrivé en France de façon naturelle, en toute discrétion, il y a 25 ans.
Jusqu'à 22h.
Cœur de loup. Le loup qui reconquiert quelques-uns des anciens territoires dont il avait été impitoyablement éliminé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un très beau film qui sort mercredi prochain. La Vallée des loups raconte la passion d'un homme pour cet animal sauvage, magnifique, et sa patience pour le rencontrer et le filmer. Bonsoir Jean-Michel Bertrand.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans notre studio de la curiosité. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes le réalisateur de ce film et son personnage principal avec les loups, évidemment, parce qu'ils sont hyper importants. Alors il se déroule ce film dans une vallée des Alpes dont vous gardez l'emplacement secret. Pourquoi ?
Les loups n'ont pas que des amis, donc en fait le but de ce film au départ c'était de filmer peut-être pour la première fois des loups sauvages. En fait moi le moteur, le truc c'était d'essayer de filmer le loup sauvage dans son environnement naturel. Le loup qui est revenu depuis 25 ans maintenant d'Italie. Et donc évidemment cette vallée qui est une vallée très préservée, ben, j'ai pas du tout envie de la dévoiler parce que aujourd'hui, bon, il y en a encore des endroits comme ça en France, mais quand même.
Cette rencontre, elle aura lieu après beaucoup de patience. On va prendre le temps de la raconter. Vous deviez quoi? Vous faire accepter des loups et des autres animaux dans cette vallée qui est magnifique?
Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, moi, j'aime bien ne pas interférer, j'aime bien être discret. J'avais fait un film avant sur les aigles. Mmh. Et alors, avec les aigles, je me cachais et puis je me targuais justement de ne pas exister, d'être là caché. Puis j'étais comme un peu comme un voyeur et je dérangeais pas, c'était impeccable. Mais avec les loups, ça marche pas comme ça parce que les loups, ils ont leur odorat. Ils passent leur temps, en fait, à contrôler leur territoire. Et donc, je me suis dit, parce que j'avais pas vraiment de recette, en fait, il y a très peu de choses vécues comme ça, un peu au Canada, mais bon, il y a beaucoup aussi d'histoires, vraies, pas vraies, on sait pas trop. Et moi, mon instinct m'a poussé à me déplacer de façon très rituelle sur le territoire, c'est-à-dire toujours aux mêmes horaires, en passant toujours par les mêmes itinéraires, et toujours en pleine journée, c'est-à-dire au moment où les loups ne bougent pas trop, pour ne pas me trouver face à eux et ne pas leur faire peur, ne pas les surprendre.
Mais vous avez même marqué votre territoire.
Et voilà,
comme les animaux, quoi.
J'ai fait pipi partout. Et je faisais pipi partout, sur les touffes d'herbe, sur les troncs d'arbres, sur les rochers, toujours aux mêmes endroits.
Donc vous dégagiez une odeur, mais c'est une odeur que vous aviez choisie, volontaire.
Ben
alors,
oui,
attention.
Ben oui, parce que les loups, c'est pipi, caca, hurlement. En gros, c'est ça. La communication, c'est ça, quoi. Donc moi, avec ma voix pétée, les hurlements, ça marche pas. Puis bon, j'aurais du mal à les imiter. Le caca, on va pas aller trop loin. Et le pipi, c'est très pratique. On peut faire pipi longtemps, partout, et toujours aux mêmes endroits. Et puis, la chose aussi très importante, c'est dormir sur place. Toujours dormir au bivouac, pour justement faire partie en quelque sorte du paysage.
Ils ont mauvaise réputation, les loups, depuis des siècles, des millénaires. Pourquoi?
Ouais.
Parce qu'ils sont des prédateurs.
Chez nous, ils ont mauvaise réputation. Dans certains pays, comme en Italie, grâce à Rome, grâce à la louve, à Romulus et Rémus,
et oui.
Ils ont moins mauvaise réputation. Les Amérindiens adorent le loup. Et puis nous, je ne sais pas d'où ça vient, on a un peu de mal avec le sauvage, on a un peu de mal avec les prédateurs.
Parce qu'on adore les chiens et les loups sont génétiquement très proches des chiens.
Ben oui, c'est pour ça, les loups en fait, ils ont été très proches de nous à une certaine époque. Et moi j'y pense, quand je suis au bivouac comme ça et que je vois les loups, je me dis, il y a 10, 15, 20 000 ans, quand un loup tuait un cerf, ben nous on passait derrière et puis on prenait peut-être des bouts de viande. En tout cas, moi j'ai eu envie quand je suis tombé sur des carcasses comme ça et que j'avais que mes soupes à manger et tout. Je me dis, tiens, un petit bout de bidoche, ça ferait pas de mal. Et puis quand nous on tuait des animaux, les loups passaient derrière aussi. Donc il y avait comme ça une interaction. Et puis elle a été tellement fusionnelle cette interaction que le chien est apparu. Parce que le chien, il a été créé à partir du loup. Donc il y a eu une rencontre à une époque. Et puis en fait, le loup, il est resté du côté du sauvage, de ce que j'appelle le monde magique, en parlant poétiquement. Et nous, on a évolué à notre manière en refusant tout ça et en se mettant des œillères.
La montagne, c'est l'habitat naturel des loups?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, le loup, il est très opportuniste. Il peut vivre un peu n'importe où. Ça peut être un animal de plaine. J'ai beaucoup filmé en Mongolie. Et en Mongolie, dans la grande steppe mongolie, il y a des loups. C'est pas du tout un animal de montagne, sauf que la montagne est un endroit préservé, un endroit sauvage où il y a du gibier. Et évidemment, les loups vont plus facilement dans les endroits où ils sont tranquilles.
Alors, grâce à vous, on découvre comment vivent les loups. Et en même temps, on raconte un peu l'histoire de votre film. Parce qu'il est vraiment superbe, donc faut donner envie à nos auditeurs d'aller le voir. Tiens, on va écouter un extrait. Comment vous avez réussi à pister les loups grâce à des caméras automatiques? Écoutez.
Ça va bien, mais ces caméras automatiques, elles déclenchent le mouvement, elles filment de nuit, de jour. Encore faut-il les poser au bon endroit. Et là, je vais un peu me fier aux traces, aux passages, aux centres. Ça va être un peu compliqué, mais bon, je vais y aller au feeling. Là, il faut que je sois stratégique. Une là, et une là, et j'en mets une là, près du gros ravin. Il n'y a pas trop d'arbres, mais bon. Là, je vais en mettre une dizaine en place.
Extrait du film La Vallée des Loups qui sort mercredi. Ça va marcher. Ces caméras vont vous offrir beaucoup d'images d'animaux. Vous allez notamment observer une meute. On vous raconte l'organisation de la meute sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous vous rappelez de la musique de Danse avec les loups avec Kevin Costner?
Très beau film.
Eh bien, nous y sommes. Nous, on vous fait découvrir la vallée des loups sur RTL, une vallée des Alpes, dans laquelle notre invité a passé 3 ans en pleine nature, au rythme des saisons, pour se faire accepter par les loups et pouvoir les filmer. Jean-Michel Bertrand, quand on dit au rythme des saisons, c'est vraiment pas qu'une expression, parce que vous y êtes resté aussi l'hiver?
Ah oui, absolument. Et l'hiver, il se passe énormément de choses. Et je peux vous dire que l'hiver dernier, à l'heure où on parle, j'y étais déjà et j'y ai passé du temps. Et en fait, j'y passais en moyenne 5 jours par semaine. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai quand même dormi beaucoup plus souvent au bivouac, dehors, que dans mon lit, clairement.
La neige, c'est un handicap, parce qu'il fait froid, évidemment, c'est pas forcément facile pour se déplacer, en tout cas pour vous. Et à la fois, c'est un avantage pour pister les loups, pourquoi?
Parce qu'il y a des traces. En fait, on peut dire simplement que c'est comme un livre ouvert, comme ça. C'est-à-dire qu'en hiver, en été, c'est le grand mystère, on sait pas où ils sont passés, et tout ça. Et en hiver, on voit les traces. Et alors, ça devient encore plus excitant parce qu'on voit les traces, mais on ne voit pas forcément les loups. Alors, j'avais les loups sur les caméras automatiques. J'avais les traces de loups. Et pendant tout un hiver, j'ai vu absolument aucun loup.
Mais c'est dingue, ça. C'est vraiment une école de la patience, votre histoire. Parce que vous attendez combien de mois avant de pouvoir filmer vous-même votre premier loup? Je ne parle pas des caméras automatiques, je parle de votre première image.
En fait, j'ai commencé le film en mars 2013. En juin 2013, j'ai aperçu un loup. J'ai eu un coup de chance énorme, donc assez vite. J'étais au bivouac, j'ai pris un orage sur la figure. L'orage s'arrête, je me lève pour faire un petit pipi. Mmh. Mais là, pas pour marquer, un vrai pipi. Mmh. Et paf, à quelques mètres de moi, enfin à 30 mètres de moi, un loup qui me regarde, 3 secondes, et qui part.
Donc ça tombe. Confirme votre intuition.
Alors là, je me dis, c'est le signe. Enfin, j'étais le roi du pétrole, j'étais heureux. J'en ai rêvé toute la nuit et tout. Et le second loup que j'ai vu, c'était en juin, le 6 juin 2014.
Donc
j'ai passé un an, une année entière, sans voir un seul loup.
Plus d'un an après?
Ouais. Et à rester sur le territoire et à se demander quand même un peu ce que je faisais là à des moments, forcément.
Vous parlez de tempête au cœur de cet hiver, Jean-Michel Bertrand. Évidemment, c'est pas simple, surtout quand on est planqué sous une tente camouflée et que le vent empêche de tourner. Démonstration.
Ça me tourne, ma caméra.
Alors, on n'entend pas bien votre voix parce qu'il y a tellement de vent. Mais cette scène, elle est étonnante. Vous êtes obligé de vous replier. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment trop de puissance.
Ah ouais, là, c'était la cata. Là, ça a été la cata. Ça m'a tout emporté. En plus, il faisait moins 15. On appelle ça la bise chez nous, une bise à plus de 100 km/h. Et ce qui est fou, et je m'en rends compte parce que je me suis filmé là avec mon iPhone. Donc, oui. Mon téléphone, je me filmais là, à ce moment-là. Et les images qui sont dans le film sont filmées avec mon téléphone, vraiment, parce que là, j'étais plus qu'en live, quoi. Et ce qui est fou, c'est que, bon, je paniquais un peu parce que la caméra était en train de se casser la figure. Enfin, c'était un peu la folie. Et en même temps, je me dis, je suis sûr qu'ils vont passer à ce moment-là et que je vais même pas pouvoir les filmer, quoi. Et c'était encore l'obsession. Mais là, j'ai dû quand même me replier, quoi.
Ça veut dire que vous partez seul, Jean-Michel Bertrand ?
Je pars seul, oui. Je pars seul, je reste seul très longtemps. Alors après, pour les besoins du film, il y a une cadreuse, Marie Amiguet, qui est une fille extraordinaire, qui est venue me filmer de temps en temps sur les bivouacs, justement pour témoigner de tout ça. Mais j'ai passé la première année absolument seul, la deuxième année un petit peu avec elle, et la troisième année elle était un peu plus là parce que le film s'étoffait. Mais c'est évidemment la solitude, et moi c'est ce que j'aime en tout cas, c'est être seul.
Seul et en même temps immergé dans cette nature qui est magnifique, cette vallée des Alpes, elle est sublime, et puis au contact des animaux et donc de ces loups que vous allez finir par rencontrer, par pouvoir filmer. Et donc, vous pouvez nous expliquer comment ça marche, quoi. Comment ça marche une meute ? Comment ils sont organisés, les loups ?
Alors, une meute, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on parle de la meute. On dira la meute de loups. Mmh.
On voit de la bave et des crocs quand on dit ça.
Voilà. Alors qu'en fait, la meute, c'est une famille. Et une meute, c'est à partir du moment où il y a un couple dominant et reproducteur. Un mâle alpha et une femelle alpha. Et donc, ils font des petits. Et les petits restent avec eux une année et demie, deux ans. Et puis après, il y a ce qu'on appelle de la dispersion. Donc en fait, la meute, c'est un éternel roulement avec des parents dominants et la descendance qui disperse parce que les loups ne supportent pas d'être nombreux sur le territoire. En tout cas, pas plus nombreux que ce que les ressources en nourriture, évidemment, exigent. Parce que si ils mangent trop de gibier, il n'y aura plus de loup non plus.
Ça veut dire quoi un loup alpha ? Ça veut dire qu'il y a des oméga, des gamma ?
Voilà, il y a le loup alpha, c'est le loup dominant, etc. Et puis il y a le loup bêta qui lui est un petit peu autour et puis qui est un futur alpha en fait et qui guette un peu pour...
Il attend son tour.
Voilà, s'il ne pourrait pas prendre la place. Et puis il y a l'oméga qui lui, alors est le loup qui est relégué, qui est un peu un souffre-douleur et qui tourne autour de la meute et qui mange les restes. Et il y a une espèce comme ça d'équilibre, de hiérarchie sociale, mais qui est toujours un petit peu mouvante. C'est-à-dire que rien n'est acquis. Le mâle alpha peut rester alpha deux ans, trois ans, et puis se faire renverser, et puis partir, et puis aller se mettre sur une autre meute où il deviendra, à ce moment-là, un bêta.
On s'est proche des humains, finalement.
Très proche, c'est peut-être pour ça que certains ne les aiment pas, ça nous renvoie à trop de choses.
La meute dont l'organisation tourne essentiellement autour des louveteaux qu'il faut protéger et nourrir, on vous le raconte tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Je sais que la fin du voyage approche. Les loups n'ont pas que des amis. Et l'homme qui dort dans la montagne ne doit pas les leurrer. Leur faire baisser la garde. Continuer serait une erreur. Je dois partir. Les laisser.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis triste. Mais j'ai aussi ce sentiment fabuleux de me sentir chaque jour un peu plus perméable au mystère du monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il fascine les hommes depuis la nuit des temps. On vous raconte comment vivent les loups sur RTL grâce à notre invité, le réalisateur Jean-Michel Bertrand, qui a passé trois ans parmi les loups dans une vallée des Alpes. C'est votre voix qu'on vient d'entendre, évidemment extrait de votre film La vallée des loups qui sort mercredi au cinéma. Le mystère du monde, perméable au mystère du monde. C'est une expérience, je ne sais pas, philosophique, spirituelle que vous avez vécue.
Non, mais je crois qu'on peut le dire. On peut dire qu'il y a un côté philosophique, un côté spirituel. Pas triste, parce que des fois la spiritualité, moi ça me fait un peu peur parce que je suis très athée, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une spiritualité dans tout ça et qu'il y a en tout cas une dimension philosophique énorme. Parce que quand on passe tout ce temps-là sans rien voir, justement, on observe tout ce qui est petit, notamment les fourmis. Ça, c'est vraiment mes copines. Elles m'ont saoulé au début parce qu'elles me harcelaient, etc. C'était l'horreur. Et puis, elles ont fini par s'habituer à moi, ce qui est étonnant. Et puis, je les regardais. Puis, quand on regarde les fourmis, on se dit, mais...
On apprend des choses quand on les regarde.
Oui, on se dit, c'est quoi leur plaisir? C'est quoi leur espérance de vie? C'est quoi pour eux la dimension vitale? Parce qu'elles vivent moins longtemps. Et puis la nuit tombe et puis il y a les étoiles et il y a les galaxies parce que je dors souvent à la Belle Étoile. Et puis là, c'est l'immensément grand. Et en fait, tout se rejoint quelque part. Et c'est pour ça que des fois, je me demande si le loup n'a pas été un prétexte en fait à me pousser justement dans cette immersion pour justement être, comme je disais, perméable au mystère du monde avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais tout ça est à la portée de nos mains, derrière la maison. C'est ça qui est fabuleux.
Et alors, quand vous trouvez les loups, on a expliqué, raconté tout à l'heure que ça a été une quête, une épreuve de patience, hein, puisqu'il faut les pister, il faut se faire accepter, etc.
Ah, c'est un peu un polar.
C'est, oui, il y a un côté, ouais, c'est ça, c'est une enquête. Il y a un côté enquête, vous cherchez les traces. Il y a un moment très drôle dans le film, c'est vous allez chercher les images d'une caméra automatique. Et puis là, il y a un cadeau, en quelque sorte. C'est un loup qui pose sa crotte devant le objectif.
C'est énorme.
Et ça. Pourquoi c'est un cadeau ?
Ah ben c'est énorme, énorme. Le loup déjà, la chance sur l'immensité du territoire qui pose sa crotte devant la caméra, c'est déjà un truc de fou. Ouais. Et puis ce qui se passe derrière, c'est encore plus fou.
Racontez.
Parce que la caméra, elle a filmé tout ce qui se passe derrière. Et là, derrière, c'est le défilé. Et c'est pour ça que j'aime ces caméras automatiques.
Mais le défilé, qu'est-ce qu'ils font ? Autour du caca, non ? Ça n'a rien à voir.
Ah ben si, c'est le défilé autour du caca de tous les animaux qui passent et qui sentent le caca du loup et qui font pipi dessus, et etc. Et je vous laisse la surprise pour la fin. Qui sera dans le film et qui est une surprise absolument colossale.
Il faut pas le raconter.
Et très marrante. mais justement, ces caméras, ce qui est fabuleux, c'est qu'elles permettent d'être un peu l'œil, comme ça, le spy game. Et c'est extraordinaire.
Vous avez pu observer, Jean-Michel Bertrand, ces meutes de près. Comment les loups communiquent entre eux ?
Alors, les loups communiquent beaucoup. Alors, déjà, il y a sur le territoire, donc on disait le pipi, caca, les hurlements, évidemment.
Et à puis, quel moment les hurlements pour dire quoi ?
Les hurlements, c'est un peu aléatoire. Ouais. En fait, là où on les entend le plus, c'est quand les jeunes sont sur ce qu'on appelle le site de rendez-vous. C'est-à-dire que les jeunes sont adolescents, qu'ils ont quitté la tanière, mais qui ne sont pas encore capables de suivre la meute dans ses chasses. Mmh. Donc, ils sont un peu cantonnés sur un lieu assez restreint et surveillés par un adulte. Et là, quand les autres adultes arrivent avec de la nourriture et autres, alors là, ils communiquent beaucoup. Et là, j'ai eu des enregistrements de hurlements extraordinaires. Des fois, on dirait même des chants de baleines. C'est des cris extraordinaires.
Avec parfois des nuits un peu courtes, parce que ça peut être la nuit, les hurlements. Et alors, des bonnes surprises aussi au réveil.
J'ai à peine le temps de me lever, ils sont déjà là. C'est le mâle dominant, il est énorme. Puis un membre de la meute, un jeune de l'an dernier, un deuxième, et la femelle alpha, encore elle. Ah, ils me regardent, ils passent la crête, ils doivent partir chasser. Un autre membre de la meute a dû rester à la tanière pour surveiller les louveteaux.
C'est fascinant, il y a toujours cette voix, vous avez une voix magnifique, qui est dans le chuchotement parce qu'on imagine que vous essayez de déranger le moins possible les animaux et cette nature qui vous accepte. Et puis alors, on découvre que finalement, les loups, bah, c'est une famille laborieuse, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'organisent, avec un objectif prioritaire, lequel ?
Eh bien, c'est ça. C'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, nous, on dit toujours le loup, etc. Enfin, on lui prête une dimension qu'il n'a certainement pas. En fait, il est besogneux, comme vous dites. Et en fait, lui, son but, c'est d'élever ses jeunes. Et c'est de faire que ses jeunes soient le mieux armés et puissent s'émanciper dans la vie, dans les meilleures conditions possibles, un peu comme nous. Et on le sent terriblement. On voit que les jeunes de l'année d'avant, justement, qui sont les oncles et tantes des louveteaux, donnent un coup de main. On voit que toute l'énergie de la meute, elle est vouée à l'élevage des jeunes.
Il y a des câlins aussi, des moments d'affection entre les loups et les louveteaux.
En fait, les loups sont très rituels. C'est pour ça que moi, j'étais rituel aussi sur mes déplacements, sur ma façon de fonctionner sur le territoire. Ils sont très rituels. C'est-à-dire que la position de la queue, la position de la tête, on offre sa gorge, on se sent, on grogne. Et on voit tout de suite, chez les louveteaux, qui ont 3-4 mois, ceux qui vont dominer et ceux qui seront dominés.
Ces louveteaux, tiens, comment sont-ils nourris par leurs parents ? C'est ce qu'on va vous révéler tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La Vallée des Loups, c'est le titre d'un film qu'on vous conseille absolument d'aller voir à partir de mercredi, une aventure, celle de notre invité Jean-Michel Bertrand qui a passé 3 ans dans une vallée des Alpes, une vallée gardée secrète pour pister puis filmer des loups en liberté. Jean-Michel Bertrand, vous avez passé donc 3 ans, beaucoup de temps, au contact de ces loups, même si vous avez dû mettre des mois parfois à les observer. Ils vous sentaient, ils vous reniflaient, ils vivaient autour de vous parfois. Est-ce qu'ils ont essayé de vous croquer, de vous faire du mal ?
Et non, c'est dommage. Hein. On peut même pas faire un peu de, dans le.
Non. Jamais.
Le loup n'est absolument pas agressif. C'est vraiment la légende urbaine. C'est vraiment le mythe total, quoi. Le loup est un animal qui est plutôt farouche, craintif, discret. Et même si on le provoque, enfin, je sais pas, à moins vraiment de créer une espèce de truc complètement improbable, il pourra peut-être vous mordre. Mais franchement, le loup est un animal qui n'est pas dangereux.
Mais vous êtes croisés, vos regards se sont croisés, par exemple, avec ceux d'un loup ?
Ah mais évidemment.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comme vous êtes un mâle alpha, j'imagine, les loups sont des loups alpha dominants.
Mais alors, vous ne croyez pas si bien dire. En fait, ce qui se passe, et même la femelle alpha, elle me regarde, elle lève la queue très droite et elle fait son petit pipi.
Ça veut dire quoi ?
Et ça veut dire, t'es là, je t'ai vu, je suis chez moi. Et c'est rituel. Et on dialogue comme ça. Et bon, c'est pas parce que c'est moi, on n'est pas intime hein, avec les loups. Mais juste du fait que j'étais toléré, que j'étais pas dangereux, chaque fois, vous verrez dans le film, chaque fois qu'il passe devant la caméra, il me regarde. Et souvent, il lève la queue et puis il pisse un coup comme ça en disant « Toi, mon gars, on sait que t'es là, pas de problème. » Et il y a comme ça un rapport. Et quand on croise le regard d'un loup qui est jaune, ses yeux jaunes du loup, mais c'est une émotion colossale, c'est une force, une puissance émotionnelle incroyable, et c'est d'immenses moments. Et évidemment, on pense à tout, sauf à un risque. Il n'y a absolument aucun risque. Chaque année, au Canada, il y a une vingtaine de personnes, ou aux États-Unis, tuées par des grizzlies. Ça, c'est un fait, c'est une évidence. Et vous n'avez jamais personne tué par un loup. C'est vraiment le truc.
Il y a eu quelques cas, mais c'était des loups malades, voilà, atteints de la rage ou des choses comme ça.
La rage, voilà. Alors ouais. La rage, effectivement, peut pousser le loup, comme le renard d'ailleurs, à agresser l'homme. Mais l'animal en lui-même, dans sa biologie, n'est pas dangereux. Voilà, ouais. Ça, une fois pour toutes, il faut quand même bien le dire. Enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Il y avait les jeunes, on aurait pu dire qu'ils voulaient défendre les jeunes, etc. Je les ai eus à 30 mètres de moi, avec des adultes. Ils me regardent, ils font les malins, ils lèvent la queue et puis ils s'en vont.
Oui, ils vous ont toléré en fait.
Voilà, tout simplement.
Et sans doute observé beaucoup plus longtemps que vous.
Ah, c'est ça. Alors là, pareil, ouais, je pense qu'ils m'ont vu beaucoup plus que ce que je les ai vus. Et je pense que peut-être qu'ils sont en train de faire une radio actuellement pour l'histoire.
Radio, en disant, ils faisaient
radio
pipi.
Radio loup.
Radio loup. Sans... on ne voit plus.
Radio loup 104.3, Vallée des Alpes, c'est très bon. Alors, on disait tout à l'heure que vous avez pu observer effectivement... une meute, donc une famille.
Ouais.
Et donc, vous repérez à un moment une louve qui a les tétines apparentes, donc ça veut dire qu'elle est en train d'allaiter, etc. Ouais. Vous observez ces louveteaux. Comment ils les nourrissent ? Passer l'allaitement, comment ils les nourrissent ?
Ben en fait, pendant 2 mois, donc, la femelle est dans la tanière, enfin, elle est très souvent là et elle allaite ses petits. Au bout de 2 mois, 2 mois et demi, les petits vont quitter la tanière avec la meute, justement, avec la famille, et ils vont les emmener sur ce fameux site de rendez-vous où ils vont passer toute leur adolescence. C'est-à-dire qu'ils vont rester sur un endroit, mais assez restreint, de 2 ou 3 hectares, et puis ils vont jouer entre eux, ils seront souvent surveillés par un adulte.
Et puis il y a un truc de régurgitation et une image où ils arrivent, où on a l'impression qu'ils ont mangé un ours, quoi, je sais pas, ils ont la panse bien pleine.
Ben oui, ça c'est quand les louveteaux commencent à être un petit peu plus grands, juste avant de quitter la tanière, en fait. À moitié ils allaitent et à moitié ils sont nourris par régurgitation. C'est-à-dire que les adultes prédigèrent, se gavent, parce qu'on le verra hein, dans le film, ils ont un ventre énorme, effectivement. Ils mangent énormément de nourriture, 10 kilos de nourriture.
Ils mangent
quoi ? Ben, des ongulés sauvages, des marmottes, mais en fait surtout chevreuils, cerfs, chamois, sangliers. Et donc après, ils vont régurgiter aux petits. Et moi, je les voyais arriver justement de leur chasse avec le ventre plein, énorme, et ils repartaient dans l'autre sens quelques heures après, tout maigres. Parce qu'ils avaient régurgité aux petits.
La tanière, vous en êtes approché à quelques, je sais pas, dizaines de mètres, mais vous avez toujours refusé d'aller la filmer, même après le départ des loups. Pourquoi ?
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose, c'est le respect. C'est-à-dire que pour moi, la tanière, c'est sacré, c'est la chambre à coucher. J'ai eu, je sais pas, un point d'honneur à me dire, cette tanière, je sais qu'elle est dans cette forêt-là, elle était à maximum 200 mètres de moi, parce que je les voyais rentrer dans la forêt plein de nourriture et ressortir vide, je savais qu'elle était là. Mais j'ai toujours respecté cette tanière. Et même quand les louveteaux l'ont quittée, à partir du mois d'août, et même en hiver, j'aurais pu aller voir comment c'était. Et bien, je me suis interdit d'y aller, parce que, je sais pas, il y a un côté respect. Moi, j'aime bien ça, de garder du mystère. Et j'essaie surtout de ne jamais être trop gourmand. C'est comme ça qu'on arrive à approcher l'intimité d'être de tels animaux. Il ne faut pas être trop gourmand. Et si on commence à être trop gourmand et à vouloir aller partout et voir partout, on devient intrusif. Et là, ben, on paye cash, c'est-à-dire qu'ils vont s'en aller ailleurs.
Jean-Michel Bertrand, vous avez l'impression que ces loups vous ont fait un cadeau en vous laissant les filmer?
Ah ben, ça a été un cadeau. Je ne sais pas s'ils en étaient conscients, mais je peux vous dire que ça a été un énorme cadeau, parce qu'on m'aurait dit il y a 20 ans, tu vas filmer des loups dans ces vallées, alors que le loup, pour moi, c'était l'animal du Grand Nord canadien, de la Sibérie, que j'essayais de voir en Mongolie il y a 30 ans. C'est extraordinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, croiser le regard d'un loup, c'est une force émotionnelle colossale.
Et ça peut nous aider à changer d'avis et de regard sur les loups aussi, à penser à les protéger peut-être
plus. Évidemment, mais de toute façon, le loup est un animal protégé, sauf qu'aujourd'hui, c'est l'animal protégé le plus chassé et le plus pourchassé de France, donc il y a un petit peu un truc bizarre dans tout ça, mais pour ça, il faudra demander aux politiques comment ça marche. Et c'est un animal, je crois, qui est tout simplement, comme je le disais, un simple animal au sommet de la chaîne alimentaire et qui est là sur son territoire et qui n'est pas du tout le monstre que l'on croit ou aussi l'animal extraordinaire que l'on peut croire.
Et il faut aller le voir, ce loup, dans votre film La Vallée des Loups, qui sort mercredi. Puis il y a aussi un livre qui est magnifique, qui complète la sortie du film. Préface d'Yves Pacalet, livre publié aux éditions Salamandre. Merci beaucoup Jean-Michel Bertrand, c'était un bonheur de vous avoir dans notre studio.
Merci de m'avoir invité. Et puis votre titre, j'adore, hein, La curiosité est un vilain défaut.
Vous êtes un curieux, vous.
Il faut être curieux, et quand on est curieux, on en apprend sur les choses.
Et d'ailleurs, sur RTL, vous allez revenir, parce que vous aviez fait un film précédemment pour parler des aigles, et on a hâte de savoir ce que vous avez
vous
à nous raconter pour les aigles.
Bon, bah écoutez,
à bientôt.
À très vite.
Merci.
Oh, j'ai plus très faim, moi.
Dans un instant, on passe à table, pas celle de fais pas ça, à la table de l'histoire, s'il vous plaît.
Vous écoutez RTL.